Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Hors champ ce soir en compagnie de Caroline Champetier. Caroline, quel bonheur de vous avoir de nouveau avec nous en studio, puisque ensemble, nous avons fait je ne sais combien d'émissions qui s'appelaient L'Aventura. Peut-être qu'un jour, cette émission reprendra, je l'espère, et vous aviez ce qui faisait l'intérêt de cette émission, c'était que vous faisiez votre plan séquence qui clôturait cette Aventura. Comment est né en vous l'amour du cinéma ? C'est votre père, architecte, qui vous a fait comprendre quelles étaient justement les masses dans l'espace, le volume des choses.
Ah, ça, c'est pas le cinéma. L'amour du cinéma, c'est vraiment en en faisant. Et d'ailleurs, je me dis, est-ce que j'en fais encore assez aujourd'hui, dans une époque où le cinéma est malmené par beaucoup de choses, et est-ce que je continue de l'aimer autant, quoi, autant, ça peut être ces moments où vous me forciez à élire un film par semaine et où, dès le milieu de la semaine, quelque chose montait, une sorte de fièvre. Quel film, je le recherchais, soit dans ma mémoire, soit sur les écrans, soit même plus loin. Et où petit à petit, je m'en approchais. Évidemment, je le voyais une fois, peut-être deux fois, trois fois. Et où, dans le film, j'élisais une séquence. Et à partir de là, je faisais ce petit travail de lecture, qui n'est jamais qu'un travail de lecture. Hein. Mais bien lire, il y a tellement de... Je ne veux pas me comparer à des écrivains, mais il y a tellement de grands écrivains dont la lecture est le terreau à la fois du style, de l'amour de cette pratique, de l'amour de la vie peut-être tout court. Et le cinéma a été ça a été ça pour moi longtemps. Je me souviens que ça a pu être dans des ruptures amoureuses ou des choses comme ça difficiles, avoir traversé des ponts de Paris la nuit seule en me disant « mais j'aimerais le cinéma plus que tout ». Ça m'a sauvée, ça me sauve encore. Je voudrais que ça me sauve toujours. Je ne sais pas.
Nous allons écouter le premier film que vous avez vu et qui manifestement vous a permis depuis de passer de nombreux autres ponts dans tous les sens du terme.
Now, what's this?
You look so dazzling in your uniform. You're going so far away. Austria, it's miles. I look it up on the map. That brute Napoleon.
The Austrians make the most beautiful bracelets. I'll bring you back one.
Nicholas, two. They're wearing them in pairs.
Two.
Yeah, you remember our cousin Sonia. She's come to stay with us.
Of course, although she was considerably younger the last time I saw her.
Well, girls grow up, Pierre, very fast. Doesn't he look glorious? Thoughtful of Mama and Papa to have such handsome children.
Mama, did you hear that?
Don't be modest.
Now, attention. Ensign Count Nicholas Rostov, I decorate you with the order of absolutely everything.
Well, I don't think you ought to laugh at her when she makes jokes about the army like that.
Oh, well, Pedro, women, you have to humor them a little.
You do look shiny, Nicholas. If only I was old enough.
That'll come, Petya.
Not in time. By the time I'm old enough, there won't be a Frenchman left to be killed.
Don't worry, Petya. There'll always be plenty of Frenchmen. Good luck.
With your views on war, that's very civil of you. But still, Mr. Pierre, why don't you take a commission?
Oh, it's so easy for you men. All you have to do is decide to do something and then do it.
Quand on entend une bande son à la radio, c'est très étrange, mais c'est comme si tout le cinéma s'offrait. Et on voit l'écran, on voit le plan. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre mémoire? Comment le son, selon vous, Caroline Champetier, peut-il nous apporter dans notre arrière-mémoire Les personnages, l'atmosphère, l'émotion.
Là, précisément, je repense au film. Je repense à Guerre et Paix, que j'ai vu à cet âge étrange de 13-14 ans, un soir de juillet, je crois, avec mon père au cinéma Le Ranelagh, qui évidemment n'existe plus. Je n'avais jamais été au cinéma, jamais évidemment avec mon père. Et c'est drôle que vous me remettiez, je dirais, dans l'imaginaire de ce film, parce que là, juste avant de commencer, j'ai écrit sur le papier blanc que j'ai pris à un de vos assistants, contraste noir et blanc. Noir et blanc, d'ailleurs, à chaque fois, c'est des contraires. Et c'est fou, ce que je fais sans arrêt, c'est d'arriver à essayer de gérer des contraires, quoi, des paradoxes. C'est que le souvenir que j'ai de ce film est essentiellement visuel. C'est le noir et le blanc. Et c'est particulièrement la clarté, évidemment, des yeux de Peter Fonda, qui était très bleu et qui, en fait, avait les mêmes yeux que mon père. Et du coup, c'était...
Mais vôtre aussi, hein. Vous l'appelez oui, Peter, mais c'est Henri, c'est papa.
Oui, c'est Henri. Et du coup, voilà, l'Oedipe s'est noué autour de ça. Père, cinéma, le cinéma qui n'avait rien à voir avec mon éducation, ma famille, etc.
Si, père, si, parce que votre père, quand même, vous a apporté l'amour de la peinture, l'amour des formes.
Ah oui, mais ça, c'est pas encore le cinéma. Le cinéma était une chose vers laquelle on ne m'aurait pas du tout conseillé d'aller. Il fallait aller peut-être vers les lettres et encore vers la musique, mais pas le cinéma.
Alors vous parlez de votre père, nous allons écouter votre grand-père, parce qu'il a été un homme admirable, il a sauvé des enfants pendant la guerre, et nous allons écouter la voix de votre grand-père en 1955, à l'occasion du 10e anniversaire de la libération des camps.
Une pensée toute particulière sera donnée aux martyrs de la déportation. Évidemment, lorsque nous évoquons ces années tragiques d'Auschwitz, de Buchenwald, de Dora, et d'ailleurs encore, et en particulier de ce camp du Chkroutov qui va devenir, en quelque sorte, le mémorial national des camps de déportation et de mort, nous ne pouvons pas ne pas penser très particulièrement à tous nos concitoyens israélites et aux millions de juifs qui ont été anéantis dans ces camps. Mais nous pensons aux autres aussi, aux catholiques, aux protestants, aux incroyants. Combien de nos jeunes, dont plusieurs étaient proches de tel ou tel d'entre nous, combien de nos jeunes filles, de nos adultes et aussi de nos pasteurs sont partis là-bas et n'en sont pas revenus. Et il est normal qu'en un 10e anniversaire du temps où ceux qui survivaient ont été libérés, notre reconnaissance et notre affection soient exprimées envers tous ceux qui sont restés anéantis dans les fours crématoires ou morts sous la torture. Mais il est bien évident qu'en une journée comme celle-ci, nous devons prendre garde à ne rien faire, à ne rien dire, qui puisse exciter la haine ou remuer d'une manière trop profonde et trop douloureuse nos sensibilités dont plusieurs sont encore comme écorchées à vif. À ce à quoi nous devons penser, c'est à l'exemple qui nous a été donné par un si grand nombre de ces déportés, hommes, femmes, jeunes gens et jeunes filles, qui par leur courage ont voulu affirmer, même sous la torture, et même en face de la mort dont ils se savaient tout proches, la permanence de l'homme. Ces mots que je prononce sont le titre d'un chapitre singulièrement émouvant du livre bouleversant qui s'appelle « Tragédie de la déportation » et qui renferme des souvenirs d'un si grand nombre de ceux qui ont pu survivre à cet immense désastre. Cette permanence de l'homme que des déportés, dans toutes les conditions les plus horribles de leur existence, ont voulu affirmer juste devant la mort, voilà ce dont nous devons nous souvenir avant tout et voilà ce dont nous devons nous inspirer. Car en définitive, ces camps de déportation, que manifestent-ils, sinon la réalité tragique et meurtrière d'un univers concentrationnaire en face duquel les hommes qui croient à la primauté de l'esprit, à la dignité de la personne humaine, doivent se sentir solidaires les uns des autres. Et si nous commémorons le 24 avril ce 10e anniversaire, ce n'est pas simplement pour regarder en arrière, c'est avant tout pour regarder en avant, et nous dire que par fidélité à ceux qui sont morts dans ces atroces circonstances, nous devons nous efforcer, dans une étroite solidarité des uns avec les autres, au-dessus de toutes nos distinctions politiques et confessionnelles, de travailler ensemble à fonder la cité des hommes libres et des hommes solidaires.
On aurait besoin d'hommes comme ça maintenant. C'est magnifique, hein ? Il était très âgé, là. C'est pas mon grand-père, c'est mon arrière-grand-père.
Il s'appelait le pasteur Bogner.
Pasteur Marc Bogner. Il était pasteur de l'église réformée de la rue Cortambert. C'est un souvenir pour moi d'une grande rigueur, d'une grande beauté, d'une grande sévérité. J'avais aussi beaucoup de mystère. C'était sans doute un homme extrêmement dur, extrêmement intelligent, mais follement séduisant. Il a eu plusieurs femmes. En tout cas deux, dont une a disparu dans des circonstances assez dramatiques, puisqu'elle s'est suicidée, ce qui pour un homme d'église est une chose effrayante. Elle était très musicienne. Il y a quelque chose de très romanesque, je pense, dans ce personnage. Et en même temps, moi, je n'ai connu que quelque chose qui était formel, quoi. Et là, de réentendre sa voix, dont je vois la moustache blanche se déplacer sous les lèvres, d'ailleurs, parce que c'était la chose qui m'étonnait le plus, enfant, d'avoir cette moustache blanche, comme dans les portraits d'hommes âgés de Julia Margaret Cameron. Cette beauté des hommes très âgés, quand la clarté des cheveux blancs, ou de la moustache, ou de la barbe blanche, ramène de la jeunesse, quoi. Et il habitait avenue des Lots, et moi, j'allais à l'école à Sainte-Marie-de-Passy, puisque j'y ai fait quasiment toute ma scolarité. J'allais déjeuner chez lui tous les jeudis. Et voilà, je me souviens peu des échanges que j'avais avec cet homme, qui était quand même très, très âgé. Mais j'étais soi-disant une enfant difficile, donc on essayait
De vous caser.
De me caser, de me donner des influences qui peut-être un jour me conduiraient à la rigueur dont on espérait que je ferais preuve.
Avez-vous dit à Claude Lanzmann que vous aviez comme arrière-grand-père le pasteur Bogner ?
Oh, il le sait, il le sait.
J'ai même pas eu besoin de lui dire.
C'est un grand enquêteur. C'est un grand journaliste.
Comment vous a-t-il choisi, donc, pour le tournage de Shoah ?
Ah, c'est pas lui qui m'a choisi, c'est celui qui l'avait choisi, William Lubchansky, qui a été choisi par Claude longtemps avant Shoah, puisqu'il avait fait avec Claude Pourquoi Israël, et que Claude est allé rechercher pour cette immense aventure qu'a été Shoah, puisque ça a été pour nous 2 ans de tournage, et pour lui 10 ans de travail, puisque ça a été les enquêtes préliminaires d'à peu près 2 ans, 2 ans de tournage et 6 ans de montage. Et mes liens avec Claude sont restés à peu près ce qu'ils se sont noués pendant la durée du tournage, quoi. Oui, il y a de l'amour, mais il y a comme ça une sorte de... Moi, il m'a appris le monde, dans le sens où le dirait Arnaud Desplechin, quoi. Sans Claude, je n'aurais pas compris, parce que ce qu'on entend là de mon arrière-grand-père, je n'en avais aucune conscience. Donc, quand je suis arrivée à 20 et quelques années, quasiment professionnelle de cinéma, puisque j'avais fait l'IDEC, je pense que je n'avais encore aucune conscience réelle de ce qu'avait été... l'extermination. D'ailleurs, vous voyez comme les termes ont changé. On parlait de déportation, on parlait d'Holocauste. On parle différemment après Shoah. On parle de Shoah et on parle d'extermination. Disons que les mots deviennent justes à défaut des hommes qui l'ont été, qui ne sont plus là souvent. Donc, il faudrait reprendre le terme de quelqu'un que vous connaissez encore mieux que moi, enfin Marguerite Duras. Je pense que j'ai été judaïsée après le tournage de Shoah, qui ne s'appelait pas encore Shoah. Et j'ai juste versé d'un autre côté de moi-même et de mon histoire. Ce qui fait que ma propre histoire, et d'ailleurs cet arrière-grand-père si illustre et admirable, je pense que je ne suis pas allée le re-rencontrer, même après sa mort, dans le souvenir, comme j'aurais pu. Je devrais peut-être le faire, mais ça m'a décalée vraiment de l'histoire de Shoah, l'histoire du tournage de Shoah. Je me souviens de Willy, dont le père, Willy Lubchansky, qui m'a donc tout appris, qui m'a appris en tout cas mon métier de directrice de la photographie, et qui avait énormément de marches, de difficultés à marcher à Treblinka dans la neige, mais cette difficulté, j'avais bien ressenti qu'elle n'était pas simplement physique, quoi. Il y avait une sorte d'épuisement de cet homme qui allait aux racines de la disparition de son père, qui avait été arrêté sous ses yeux en zone libre alors qu'il faisait du vélo avec sa mère et son frère. Et on a demandé à son père, devant ses yeux, de se déshabiller. Et son père a été arrêté, mis en camp, et malgré les efforts incroyables de sa mère pour le faire libérer, elle y est presque arrivée, puisqu'un jour, étant allée au camp, ils ont fait appeler le père de William Lubchansky et ils lui ont demandé de se présenter. Et par peur, il ne s'est pas présenté. Il se serait présenté, je pense qu'il aurait pu retourner vers les siens. Il ne l'a pas fait et il a disparu à Auschwitz. Et je me souviens de Willy cherchant le nom dans ces immenses liste de noms qui sont à Auschwitz.
Leur message est magnifique, un message de tolérance et de respect des autres, d'intelligence, d'intérêt pour les autres et de dialogue, quoi. Et les problèmes s'effacent quand on se parle, on voit qu'on est pareil finalement. Si on pouvait, dans une époque où en France on est en train de monter les communautés les unes contre les autres, où on vous sort des faux problèmes de burqa qui concernent personne, pour éviter de parler des problèmes de mes voisins agriculteurs qui sont perdre leurs revenus, des gens qui font les poubelles, plein de choses qui se passent dramatiques. Si on peut, à un moment donné, arrêter d'avoir peur des autres, et si on pouvait se parler, et puis arrêter tout ça, quoi. C'est bien, ce message est bienvenu en ce moment.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à des frères? Ça peut, a priori, sembler loin de vous.
Je m'intéresse d'abord à des hommes, avant de m'intéresser à des frères, quoi. Des hommes de bien, des hommes intelligents, et j'essaie de grandir aussi. Il y a une phrase qui dit « L'histoire nous apprend que les hommes ne retiennent rien de l'histoire ». Donc c'est intéressant de savoir pourquoi on retient rien de l'histoire.
Nous venons d'entendre la voix de Xavier Beauvois, c'était au micro d'Eva Bétan au moment de la sortie du film « Des hommes et des dieux ». Caroline Champetier, donc c'était en mai 2010. On sait le succès qu'a eu ce film. Avec le recul du temps, qu'en retenez-vous de ce tournage et de la beauté de cette lumière qui reste à l'intérieur de nos mémoires?
Ce qui est passionnant dans l'histoire du tournage, parce que c'est en fait ça que vous me demandez, c'est à quel point on a été intimidé par le sujet, et donc en étant intimidé, on était au niveau juste où il faut être quand on travaille sur un film. Oui, cette histoire nous dépassait. Donc on tentait de la rejoindre, à la fois par une concentration, par une somme de travail. Et puis il y a quelque chose, outre le fait que sans doute Xavier Beauvois est des cinéastes français, celui qui est le plus, et pour des raisons qui lui sont propres, parce que c'est son histoire personnelle, c'est son histoire sociale. Enfin, Xavier fait partie des metteurs en scène qui ne viennent pas d'un petit cercle bourgeois ou petit bourgeois ou germano, je ne sais quoi. Xavier est un petit gars du Nord qui arrive et qui, s'il n'avait pas fait de cinéma, et on le voit vraiment bien dans son premier film Nord, serait sans doute un grand délinquant, quoi. Ou un petit délinquant, mais plutôt un grand délinquant. Donc, voilà, le cinéma, c'est un cinéaste né, mais parce qu'il en a eu besoin, parce que c'était une nécessité pour sortir de quelque chose qui était une histoire familiale et sociale lourde. Donc il a, ça c'est ce petit détour que je fais, il a, contrairement à pas mal de cinéastes qui ne savent pas...
Ça veut dire quoi, ne pas savoir?
Qui ne savent pas incarner. Savoir incarner, et je ne sais même pas si savoir incarner, ça veut dire quelque chose. C'est sans doute pouvoir incarner. Mais pouvoir incarner, c'est parce qu'on se sent, et là, dans l'archive que vous me passez, on se sent homme, quoi. Et Xavier se sent homme à tel point que... Oui, c'est un homme parfois difficile, hein, parce que il y a des choses qui lui sont insupportables, et qu'il a des... Il y a des vrais écarts, quoi. D'ailleurs, il fait difficilement partie de cette famille, qui n'est absolument pas une famille, vous le savez, du cinéma français. Donc voilà, je pense que le film nous a conduits. C'est pas nous qui avons conduit le film. C'est le film qui nous a conduits. Et ça, c'est Xavier y croit, ça, la parole du film. Et puis, il y a eu autre chose, ça a été ces hommes acteurs, qui ont, eux, chacun fait un trajet pour rejoindre leur personnage. Certains sont allés dans la famille, des moines, etc. Et le groupe d'hommes, et ça, on le doit aussi au casting, à la distribution de Xavier et de Frédéric Moidon, a fonctionné. Et je me souviens très bien de Xavier, au bout de 3 jours, disant « Le groupe marche, le groupe fonctionne. » Et le fait que le groupe fonctionne... Quelque chose de complètement organique qui doit avoir lieu quand on tourne un film. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'être plusieurs à fabriquer quelque chose. Comme quand on fait de la musique. Enfin, même si cette comparaison, les gens la trouvent bateau, elle n'est pas bateau d'être ensemble au même moment à faire quelque chose. Et donc, voilà. Il y a une organicité qui s'est mise en place, une sorte de respect mutuel de tout. Et le film a été magique, oui, magique. Magique. Même la neige qui est arrivée, moi réveillant Xavier en disant on a de la neige ce matin, on y est allés tous les deux quasiment en premier, on a fait des plans du monastère vide qui sont d'ailleurs montés, puis on a entraîné les moines faire et toutes ces séquences de neige qu'on a fait en 4-5 heures. Parce qu'après, c'est ça qui se passe souvent dans le Moyen Atlas, on a plusieurs saisons dans une semaine et quelquefois 2 saisons dans une journée. Quand je dis ça, ça peut être un hiver et un printemps, quoi. Parce que le temps change.
Pourquoi avez-vous tant tardé, Caroline Champetier, pour faire votre premier long métrage, qui est absolument magnifique, donc, Berthe Morisot? Parce que, au début de votre carrière, de votre itinéraire, parce que vous n'êtes pas du genre carriériste, vous avez fait plusieurs courts-métrages. Mais vous avez attendu très longtemps pour faire ce film. Pourquoi ?
Parce que le métier que je fais est extraordinaire. Il est extraordinaire parce qu'on est au plus près de quelque chose.
Plus que d'être metteur en scène.
Et on n'en a pas les risques. Et peut-être qu'il y a chez moi, il y a eu chez moi une certaine lâcheté. Mais en même temps, je crois que je ne me suis pas autorisée tout simplement à faire des films parce que j'ai commencé en travaillant avec des très grands metteurs en scène. Vous savez que le premier film est celui d'Ackerman, dont je suis allée présenter le dernier en début de semaine à Ivry. Il faut faire des choses comme ça. Hein. Et je dois dire que j'avais attendu de le voir pour le présenter. Ça a été une claque quand même. Le dénuement de ce film, c'est impressionnant, quoi. La déclaration de guerre au cinéma, à tout, quoi, sauf à sa mère. C'est un film très bouleversant.
Alors là, vous parlez donc du dernier film, No Home, de Chantal Ackerman.
C'est un détour. Moi, j'ai
non, voilà. C'est pas un détour parce que Chantal Ackerman a décidé fin à ses jours. Et ce qui est magnifique, c'est que tout au long des mois après la sortie de ce film, donc il y a tout un cercle d'amis et d'amoureux du cinéma de Chantal Ackerman qui a décidé d'accompagner le film. Parce qu'un film, c'est pas mort. Mais nous, quand on est spectateur et quand on va dans une salle de cinéma, on a rendez-vous avec l'écran. Et là, je trouve que l'idée d'aller accompagner les spectateurs avant le début du film pour parler de ce film, c'est comme accompagner Chantal Ackerman.
Ou après, d'ailleurs. On en a parlé longtemps. 50 personnes à Ivry qui sont restées 3 quarts d'heure à m'écouter. Je dirais balbutier, parce que j'étais quand même j'étais choquée, hein. Et puis c'est sorti, J'étais vraiment avec Chantal. Oui, ça m'a fait extrêmement de bien, et parce que Chantal était quelqu'un de difficile avec lequel on pouvait se brouiller.
Mais vous aimez bien les gens difficiles, et on vous dit difficile vous-même.
Non, mais ça vous savez que les Français aiment toujours caractériser psychologiquement les gens.
Pas les autres cinéastes des autres pays.
Non, moi, pour moi, un metteur en scène n'est jamais difficile. Et là, c'était dans la relation. Chantal était, voilà, fantasque.
Alors, revenons à vous.
Pourquoi j'ai pas fait de film? Parce que je me suis mise en retrait, et que la lumière est une façon extraordinaire d'être en retrait sans l'être. Il doit y avoir quelque chose d'ambigu chez moi. Je sais très bien que la lumière est au premier plan. Mais de la faire à côté d'un metteur en scène, je suivais des traces. Et puis j'ai travaillé avec des gens qui sont, entre autres, par exemple Jean-Luc Godard, auquel je me souviens avoir montré mon deuxième ou troisième court-métrage, Le sommeil d'Adrien, et qu'il a regardé. Je suis allée en Suisse avec ma bobine de 35 sous le bras pour lui montrer. C'était un moment où je travaillais avec lui, ou retravaillais avec lui. Et il m'a dit non, mais bon. Il m'a dit, Jeanne est très bien, il y avait ma fille qui jouait dedans, mais fais pas ça. Je n'ai jamais su si le « fais pas ça », c'était « reste là avec moi, à faire ce que t'as à faire », ou c'était « tu n'es pas faite pour ça ». Je ne le saurais jamais.
Enfin, vous avez choisi la seconde quand même, mais avant voilà, finalement de prendre acte de votre désir, et comme par hasard, de faire un film à propos sur la lumière.
Oui,
la matière même de la lumière, avec Berthe Morisot.
Sur la matière, oui. Sur la matière, sur la lumière, dans le sens où Morisot, ce qu'elle travaille, quand elle voit que Manet est le maître du noir, ce qu'elle travaille, c'est le blanc. C'est là où les femmes se font toujours des écarts, et où, quand on regarde la peinture de Berthe, on voit tous ces éclats blancs qu'elle rajoute en grande impressionniste qu'elle est, plus, bien sûr beaucoup plus impressionniste que Manet. Manet reste en même temps, moi, un personnage absolument fascinant, parce que pour moi c'est l'inventeur du personnage, de la mise en scène. C'est-à-dire, quand je regarde une toile de Manet, le personnage est là, et je l'ai expérimenté en filmant Berthe, c'est-à-dire qu'il a fallu scoltiner dans l'atelier de Manet, qui est un des décors du film, l'étoile de Manet. Et quand j'ai vu ces toiles avec des personnages quasiment grandeur nature, je me suis dit, mais merde, comment je vais faire? C'est-à-dire que la puissance des personnages peints était telle que je me disais, mais ça, mes acteurs tiendront pas en face de ça. C'est pour ça que j'ai mis des... Mais c'est extraordinaire quand on fait quand on prend vraiment conscience de ça chez Manet. Et je pense que Manet ouvre la voie aux cinéastes, aux grands cinéastes de l'incarnation, comme peuvent être Maurice Pialat.
En tout cas, vous avez fait un film magistral, à la fois par son montage, son interprétation d'acteur, la beauté de cette lumière, et puis vous avez réussi aussi à nous rendre perceptible l'intériorisation du geste artistique, ce qui est quand même pas évident. Vous parliez de Maurice Pialat, il a fait un Van Gogh. Est-ce que vous êtes inscrit justement dans cette démarche de Pialat? Est-ce qu'il vous a guidé dans votre manière de concevoir ce film?
Je regarde, et je me souviens, quand on commence un film, on est toujours très très angoissé et extrêmement seul. Parce que même si on a une équipe, elle n'est pas au même endroit que vous. Elle n'est pas avec les acteurs, elle n'est pas dans quelque chose que finalement vous rejoignez... Et dans les insomnies, je regardais les films de Pialat. Et entre autres, je regardais Van Gogh, oui. Et Van Gogh qui ouvre le Nuitaine film. Parce que quand Nuitaine a vu le film, lui, il a été assez critique de Berthe Morisot. Et on a longuement parlé, c'est d'ailleurs l'ouverture de ce Nuitaine film, on a longuement parlé de c'est quoi incarner un artiste ou un geste artistique. Et là où il a raison, c'est que je crois que le geste de l'artiste, on ne peut pas l'incarner, puisque justement il faudrait que ce soit un artiste. Donc ça ne peut pas être un acteur, mais la pensée on peut. C'est-à-dire qu'un acteur, et c'est là où elle a été forte, et où ensemble on a fabriqué un peu quelque chose, Marine Delterme, c'est qu'elle s'est mise dans la pensée de Berthe. Ça, et là on rejoint...
La pensée vous connaissez, parce que vous avez aussi fait le film de Hannah Arendt.
Oui, mais c'est... Et d'ailleurs, c'est ça, vous avez absolument raison, Laure, parce que Margaret von Trotta, que j'ai rencontrée l'autre jour à l'hommage à Luc Bondy, m'a dit « je n'aurais jamais pensé que ça fasse un tel succès ». Et je lui ai dit « mais si, d'abord, le scénario était très bon, mais vous savez, filmer la pensée, on a toujours raison ». Et ça, c'est un grand truc de Garrel. Hein. Pense, il dit ça à ses acteurs. Il dit « pense à ta mère, pense à ta sœur ».
Mais vous, à qui avez-vous pensé quand vous avez décidé de retrouver Bruno Nuitten pour ce dernier film que vous venez de signer ? Bruno Nuitten, vous l'aviez rencontré grâce à Marguerite Duras.
Non, je l'avais rencontré en fait parce que sortant de l'IDEC, c'était le directeur photo phare, c'était la star de notre génération. Et en plus, Bruno était, vous vous en souvenez, d'une beauté. Et il avait quelque chose de très particulier, c'est qu'il était évidemment, et je pense que beaucoup de grands opérateurs le sont, très féminin. Il avait des cheveux jusqu'au milieu du dos, il séduisait absolument tout le monde. Il le raconte dans le film, et ça, il dit qu'il l'a appris grâce à Marguerite. Donc il y avait une érotisation constante, quoi, un cercle érotique autour de Bruno. Et il a arrêté. Et en fait, ce qui m'a... Et ce mystère...
Il a arrêté quoi ?
Il a arrêté le cinéma. Il a arrêté ce geste pour lequel il était extraordinairement doué. Il a fait quelques films. Il
aurait dont pu... un Camille Claudel.
Oui,
magnifique. Avec Adjani.
Magnifique.
Très beau film.
Très beau film.
Il a fait pour Adjani.
Avec. Et d'ailleurs, elle culmine vraiment dans ce film. Comme quoi, les films, il faut parfois être deux pour les faire, parce qu'ils sont ensemble pour
peut-être
le faire.
Peut-être trois. Un metteur en scène, une directrice de la photo, peut-être un acteur ou une actrice.
Mais je crois vraiment qu'il y a une force dans ce film qui est leur voix commune, quoi. Et il n'est pas revenu à ce geste, qui est quand même son geste, parce que vous verrez, enfin. Les gens qui verront le film comprendront à quel point il sait parler de ce geste de direction de la photographie. Eh bien non, il a lâché, comme une histoire d'amour dont on s'éloigne. Et ça m'a questionné beaucoup sur moi, sur cette idée qu'après chaque film, on a envie d'arrêter, ou peut-être même parfois avant. Je me souviens d'Adjani disant, si on n'a pas peur avant de commencer un film, c'est même pas la peine d'y aller. Et c'est vrai, on a vraiment peur, à chaque fois. D'essayer de rendre la vie, d'aller au bout. Et donc, voilà, je l'ai interrogé pendant plusieurs heures, 8 heures. Et à cette époque-là, j'étais artiste invitée au Frénois. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être avec une partie de ces 8 heures, qui sont toutes magnifiques, je ferai un film. Et la matière visuelle de ce film, pour moi, devait passer en dessous de la voix de Bruno. Et donc, j'ai pris des extraits de films, souvent des films de Marguerite et certains des films qu'il a photographiés.
Nous allons écouter un extrait de votre film, donc, en écoutant la voix de Bruno Nuitten.
Quand tu t'es dit « c'est fini », mais tu te l'es dit plusieurs fois « c'est fini », parce que tu te l'es dit quand tu n'as plus voulu photographier et cadrer.
Ah oui, parce que la peur est revenue au galop, là. Il n'y a que dans les moments où j'ai enchaîné des trucs, tu vois, que t'as pas le temps d'avoir trop peur parce que tu... Pour ça, j'ai toujours adoré enchaîner les machins. Mais t'as pas le temps d'avoir trop peur parce que tu viens de le faire, bon, même si t'as déjà oublié 5 minutes après, ça revient vite, quoi. Et puis, si tu passes un an sans le faire, si... Ben là, tu sais plus du tout. Enfin, là, c'est terrorisé, quoi. Terrorisé comme au début, hein. Parce que les premiers films que j'ai fait comme assistant, j'aurais pu tomber en syncope de... Je me sentais incapable de tout. C'est un rapport à l'existence, hein. Comment je vais faire pour me sortir de ce merdier, quoi. Alors, tant que tu peux te le dire et agir, ça va. Si la peur te paralyse, tu peux plus rien faire du tout. Et ça, c'est vraiment un cauchemar, alors. Quelquefois, t'arrives pas à la calmer, ta peur, quoi. Elle est tellement présente que elle t'inhibe et rien ne se passe. Alors curieusement, et je sais pas pourquoi, entre la Sistana et les premiers courts-métrages que j'ai faits, j'avais peur, mais pas la même peur. J'avais l'impression que je pouvais agir. Comme j'étais pas la dernière roue du carrosse, je me disais, après tout, c'est mon initiative aussi, donc ça va me faire moins peur, parce que même si je peux avoir des projets un peu aventureux, j'essaierai de tenir le truc jusqu'au bout, quoi.
Donc ça fait peur de faire du cinéma. Ça oui. peut faire tellement peur qu'on peut arrêter. Parce qu'on se sent pas à la hauteur.
Non, mais ça fait peur. Ça fait peur. C'est d'abord beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et à un moment donné, on arrive au tournage. Et le tournage est quand même une chose chimiquement compliquée. Parce que c'est beaucoup de monde dans un temps assez resserré. Toujours trop resserré. On n'a jamais assez de temps pour faire un film. Et du coup, le regard de l'autre, et l'autre, c'est pas l'autre, hein, c'est 30 personnes, c'est 10 personnes, c'est aussi pour ça que la nouvelle vague a réduit les équipes. C'est... Voilà, donc on doit faire son geste, chacun le sien, l'acteur son geste, l'opérateur son geste, l'ingénieur du son geste, sous le regard des autres. Oui, on a peur, bien sûr. Et je pense que quelqu'un qui ne fait pas du tout, enfin, qui dénie ça, c'est pas bon, parce que du coup, il y a une sorte d'insensibilité, quoi. Donc, il faut savoir avoir peur, quoi. Mais là, il en parle magnifiquement, Bruno, de ça.
N'avez-vous pas réveillé, justement, son désir de revenir au cinéma?
Eh bien, écoutez...
En allant dans sa tanière, comme une bête blessée, le réveiller?
Bah, Bruno Nuiten, l'année prochaine, sera artiste invité au Frénois. Et... sans doute, et peut-être, quelque chose existera à partir de là. Je l'espère, parce que c'est un artiste. C'est indéniablement un artiste. Mais que l'artisanat, lui, en même temps, c'est aussi l'artisanat, et cette façon, vous demandiez ce qu'il faisait de ses journées, moi, je dirais qu'il répare le monde. Comme je pense que le cinéma doit réparer le monde. Et donc, oui, il a un atelier qui est une chose absolument dingue, où il répare tout. Tout ce qui peut réparer.
Et vous, vous pensez que vous réparez le monde ?
J'essaye. Par exemple, vous parliez du film d'Ouni Lecomte.
Donc, je vous souhaite d'être follement aimé. C'est le titre de ce magnifique film qui, hélas, n'a pas été assez distribué, qui est encore visible, je pense, aujourd'hui, à condition de le chercher vraiment. Et qui raconte une histoire très douloureuse avec des moyens remarquables, avec une humilité, avec un éloge de la peau, je dirais. Ouni Lecomte raconte, j'imagine peut-être, des échos de sa propre histoire, une histoire d'adoption et de non-possibilité d'avoir accès à la vérité de sa propre histoire. Mais vous, Caroline Champetier, directrice de la photo sur ce film, vous filmez quoi ? La peau des gens.
La peau des gens et la peau d'une ville. C'est-à-dire que quand il a fallu se... Évidemment que c'est... Il y a des échos très profonds chez Ouni qui avait fait un premier film qui s'appelle Une vie toute neuve, qui est l'histoire d'une adoption d'une enfant coréenne par une famille française. Mais en fait, c'est toute la période de l'orphelinat. Le film Une vie toute neuve. Bon, là... C'est des traces qui sont semblables, mais il fallait l'incarner. Parce que le problème du cinéma, c'est ça. C'est toujours d'incarner dans un lieu, dans un corps, etc. Elle a choisi cette ville, Dunkerque, qu'elle connaissait peu. Elle avait été une ou deux fois. Et je lui ai dit, la seule chose, c'est qu'on aille là-bas. Et on y a été ensemble. Et moi, je suis tombée raide dingue de cette ville. C'est une ville, mais folle, quoi. C'est pour ça que tout ce qui se passe en ce moment dans le Nord, je trouve ça cinématographiquement passionnant. Et c'est pas forcément en s'enfermant avec les migrants qu'on en rendra compte. C'est aussi les échos de tout un territoire, quoi. Et donc, il y a cette ville ancienne de Dunkerque, il y a ces strates de villes nouvelles. Et je lui ai dit, ça, il faut le filmer aussi. Et je crois que dans le film, c'est sensible. C'est-à-dire cette architecture ultra moderne. Du grand large, qui sont des bâtiments qui ont été construits sur les anciens chantiers navals, et puis l'architecture des années 50 où vit la mère d'un des personnages, Françoise Lebrun, et puis d'autres niveaux de la ville. C'est toutes ces strates. Je me suis dit, il faut qu'on arrive à les mettre ensemble. Et je crois qu'on est arrivé à le faire. Et quand il paraît qu'ils ont projeté le film, et j'y suis pas allée, à Dunkerque, les gens de la ville étaient éblouis par leur ville. Et rien ne pouvait me faire plus plaisir. C'est-à-dire que je savais qu'on avait saisi ensemble quelque chose de ce territoire.
La jeune femme qui incarne le rôle principal, qui est une jeune femme qui essaye d'avoir accès à sa propre histoire et à sa propre origine, elle a un métier qui est celui d'être masseuse. Donc elle passe sa vie à toucher des gens et à toucher, à masser, à réparer, pour employer votre propre terme, des gens qui vont pas bien. Et là, vous, comment vous faites pour filmer le rapport entre peau et peau, entre main et peau, entre corps fatigué et corps fatigué qui, grâce au massage, va pouvoir respirer?
Beaucoup de temps dans le cabinet d'une kinésithérapeute qui nous a instruites, Céline Salette, Ouni Lecomte et moi, pour comprendre ce qu'étaient vraiment ces mouvements. Je dirais les positions, d'où on regarde ces corps. Est-ce que c'est d'au-dessus? Est-ce que c'est en dessous? Une forme de s'approcher. Parce que la question au cinéma, c'est toujours de s'approcher. Parfois de se reculer. Mais c'est toujours une question de proximité. Quelle est la bonne distance, quoi? Donc, s'approcher de ce geste. Donc, forcément du travail, hein, des strates de travail. Et puis, pendant le tournage, une très très grande concentration, des mouvements, toujours des mouvements, des travelling, un zoom qui permettait de réajuster la focale sur le geste, et après une lumière qui enveloppe ça, et qui est une lumière plutôt douce, c'est-à-dire à la fois c'est des projecteurs qui sont à l'extérieur du lieu, mais avec pas mal de strates de diffusion. Ce qui n'est pas le cas des Innocentes, où là, la lumière est toujours réfléchie. Mais c'était un film moins doté, et voilà, il fallait... L'expérience du cabinet de kinésithérapie a été très très forte. Là aussi, je pense que c'était un endroit où, un peu sacré, où Ouni a vraiment voulu que ce toucher, ce que vous dites sur la peau est juste, soit sensible. Donc, beaucoup de travail.
Et l'avenir du cinéma, c'est réparer les vivants, pour faire allusion à un titre d'un merveilleux livre et très beau livre de Maïlys de Kerangal.
Oui, c'est certainement réparer peut-être la politique, en tout cas les groupes humains, oui. Je pense que dans le cinéma, il y a, si les gens voulaient bien se pencher sur ce qu'étaient les intermittents du spectacle, avec... je dirais un petit peu plus d'intelligence et d'ouverture d'esprit, il verrait que la flexibilité à la française, dont on parle beaucoup, et dont parlent des économistes aussi géniaux que Philippe Aguillon, eh bien, elle est déjà à l'œuvre aussi. Donc, juste, les gens ne savent pas se regarder, comme disait Beauvois tout à l'heure, et apprendre les uns des autres. Je pense que dans l'intermittence au cinéma, cette intermittence qui a été tellement... oui, vilipendé, mal jugé, mal regardé. Il y a des exemples extraordinaires pour ce que pourra être le marché du travail plus tard. Parce qu'effectivement, il y aura moins de travail. Donc, il faudra une flexibilité. Il faudra trouver les lieux et les temps de travail. Eh bien, pour ça, je trouve que l'intermittence est un modèle. Ça serait intéressant que nos dirigeants s'y intéressent.
Ben, merci beaucoup, Caroline Champetier. Merci à Jean-Michel Bernaud, Corinne Amar, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.